Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, fahadha al-yawm huwa al-thalitha ashar min shahri Jumad al-Ula aama 1440 min hijratin nabi sallallahu alayhi wa sallam. وهذا المجلس هو 28 في شرح كتاب العبودية أو رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 19 janvier 2019 et l'on se réunit aujourd'hui pour le 28e cours de l'étude du livre Al-Ubudiyya, la servitude de l'imam ibn Taymiyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Nous sommes arrêtés toujours dans le sujet de l'amour que le serviteur doit porter à Allah subhanahu wa ta'ala et quelques-unes des différentes erreurs dans lesquelles sont tombés ceux qui ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala mais qui au final n'ont fait que ressembler aux gens du livre, qui ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala et être aimés de lui, se rendant licite ce qu'Allah azza wa jal a interdit pour cette cause. Nous sommes aimés d'Allah, nous pouvons donc faire. Beaucoup d'ambiguïtés ont été citées par l'auteur, rahimahullah. Après tout cela, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous a montré que le réel amour que l'on éprouve pour Allah, comme il se doit, subhanahu wa ta'ala, implique la servitude, la soumission à ses ordres, le délaissement de ses interdits et son adoration. Plus cet amour augmente dans le cœur, plus la servitude se voit dans les membres de la personne. Et ces deux choses que sont l'amour et la servitude ont un lien inséparable. Après cela, l'auteur rahimahullah nous dit « Wa kullu mahabbatin la takunu lillahi fahiya batila, wa kullu amalin la yuradu bihi wajhullahi fahuwa batil » Et toute œuvre, et tout amour, pardon, qui n'a pas été réservé à Allah, tout amour qui n'a pas existé pour Allah est nul. De même, toute œuvre par laquelle on n'a pas voulu le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une œuvre nulle. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, va nous montrer que toute adoration et action faite pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est nul. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Kullu ibadatin la takunu lillahi fahiya batila » Toute adoration n'étant pas vouée à Allah est nulle. « Wa la tanfa'u sahibaha li'annaha mu'assasatun ala al-mahabbati lighayrillah » Elle ne sera pour la personne d'aucune utilité, car cette personne a basé cette action, celle qui n'a pas été acceptée, celle qui a été considérée nulle, sur l'amour pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout amour qui n'a pas été pour Allah est nul. Souvenez-vous du hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il existe trois choses. Dès lors qu'elles se réunissent en la personne, elle aura goûté à la saveur de la foi. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous a enseigné que ces trois choses sont pour la première la base, la deuxième la branche et la troisième repousser son contraire. La première étant qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam soient plus aimés à la personne que quiconque autre que. Sa branche, qu'elle n'aime quelqu'un que pour Allah. Repousser son contraire, c'est la troisième chose, qu'elle déteste retourner à la mécréance jusqu'à la fin du hadith. Ici, tout amour qui n'a pas été pour Allah subhanahu wa ta'ala est un amour qui est nul chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là se désavoueront les uns des autres le jour dernier. Wa kullu amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil. Toute œuvre n'ayant pas été accomplie pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala est nul aussi. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité à maintes reprises dans le Coran À titre d'exemple, quelques versets qui nous sont cités par le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala, qui nous dit « Takunu haba'an manthura » Ces œuvres deviendront comme de la poussière éparpillée. Elles n'auront aucune valeur chez Allah. Allah Azza wa Jalla a dit « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » Dans le sens du verset, le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala verra les actions de ceux qui ont œuvré dans cette vie d'ici-bas. Des actions qui en apparence étaient de bonnes actions. Des actes méritoires, comme le fait d'avoir aidé autrui, comme le fait d'avoir répondu à l'appel ou aux besoins du besogneux, etc. Et pourtant, le jour dernier, ces actions seront comme de la poussière éparpillée. Pourquoi ? Elles n'ont pas été faites pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans surat al-Nur, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait l'image de ceux qui ont mécru, les polythéistes qui ont mécru en lui et qui lui ont donné des égaux. Ils sont à l'image d'un mirage lorsque la personne se tient debout dans le désert et que cette dernière est assoiffée. Très souvent, dans le désert, les gens ont l'impression de voir une source au loin, n'est-ce pas? Ils ressemblent à l'assoiffé qui a vu un mirage au loin. Et lorsqu'il s'en approche et qu'il arrive à cet endroit, il ne trouve rien. Et le jour dernier, ils trouveront Allah pour leur donner leur pleine rétribution. Et certes, Allah est rapide à dresser les comptes. Subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ L'image de ceux qui ont mécru en leur Seigneur. أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ Leurs actions sont comme de la cendre éparpillée par un vent violent. لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ Ils ne peuvent rien rattraper de cela. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ Voilà l'égarement lointain. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a un ouvrage intitulé « I'lamul muwaqqi'in an Rabbil alamin ». Dans cet ouvrage-là, il a consacré un chapitre à l'explication des paraboles faites par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et il a expliqué celle-ci. Dans son explication, il nous dit que ceux qui ont commis le polythéisme et qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, leurs actions ont été ressemblées à de la cendre. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, on aurait pu les faire ressembler au sable. N'est-ce pas que le sable et la cendre sont deux choses qui sont proches, dans le sens où c'est de la poudre, quelque chose qui peut être poussé par le vent, quelque chose qui n'a pas grande valeur. Mais pourquoi alors on a parlé de la cendre particulièrement? Ça vous montre la profondeur de la science de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il répond à cette question en disant, car en réalité, ces gens-là, comme ils n'œuvrent pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'ils commettent le polythéisme, leurs images, leurs actions de polythéisme ressemblent à un feu qui les brûle dans cette vie d'ici-bas. Avant l'au-delà. Et ils en trouveront le jour dernier de la cendre. Donc, plus ils œuvrent, plus ils se brûlent. Parce qu'ils sont dans le polythéisme. Et la cendre, lorsqu'elle est réunie dans un endroit, et qu'un vent violent arrive dans ce même endroit, elle va être éparpillée. La personne qui s'était fatiguée à la réunir pour la poser, ne pourra en rien réunir la cendre. De même, les actions des polythéismes le jour dernier, elles ne leur seront d'aucune utilité. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Voici l'égarement lointain. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite, فَالدُّنْيَا مَلْعُونَ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ. Cette vie d'ici-bas, dunya, est maudite. Maudit est ce qui s'y trouve. Cette vie d'ici-bas est maudite. Maudit est ce qui s'y trouve, exception faite de ce qui est réservé à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salah al-Fawzan nous dit, mal'ouna ay madmouma. Maudite, c'est-à-dire blâmée. Fahia madmouma, idha kanat la tusta'malu fi ta'atillah. Cette vie d'ici-bas est blâmée, maudite, si elle n'est pas utilisée, elle n'est pas mise au service de l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Amma idha kana yusta'anu biha ala ta'atillah, fahia mahmouda. Par contre, si elle est utilisée dans le chemin de l'obéissance d'Allah, alors elle est louable. Voyez ce qui rend cette vie maudite lorsqu'elle n'est pas utilisée pour le but pour lequel nous sommes créés, qui est l'adoration d'Allah. Elle devient maudite. Elle n'a aucune valeur. Elle est blâmée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Par contre, si elle est considérée comme un moyen menant à atteindre, à concrétiser le but de notre existence, alors elle sera louable, car elle est un outil nous aidant à adorer Allah. وَالدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ لِلْآخِرَةِ. Cette vie d'ici-bas est le champ de labour pour l'au-delà. Tu es ici à semer les graines et tu en récolteras les fruits le jour dernier. فَمَنِ اتَّخَذَهَا وَسِيلَةً لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَاسْتَعَانَ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ تَكُونُ الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ مَحْمُودَةً وَمَنْ عَكَسَ الْأَمْرَ وَاتَّخَذَ الدُّنْيَا لَذَّاتِهَا وَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهَا عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَكُونُ حَسْرَةً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Celui qui n'a pas su l'utiliser dans l'obéissance à Allah, elle sera pour lui une source de regret le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse quitter ce bas monde pleinement satisfait de lui et qu'il soit satisfait de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yaqul ibn Adam, mali, mali. Le fils d'Adam dit, mes biens, mes biens. Il ne pense qu'à ses biens, qu'à ce qu'il possède, qu'à amasser. Qal, wa hal laka yabna Adam min malika illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, et qu'as-tu d'autre, ô fils d'Adam, que ce que tu as mangé et fait disparaître, ou ce que tu as porté comme vêtement pour l'user, ou alors ce que tu as donné en aumône et que tu as avancé pour ta rencontre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit, sauf ce qui est réservé à Allah. Sauf ce qui est utilisé, comme nous l'avons dit, dans l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, nous dit, dhabitu ma kana lillah. Le point de repère montrant quand est-ce que la chose est pour Allah. أي فلا يصل إلى الله ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه. الله تبارك وتعالى n'accepte que ce qui lui est voué sincèrement, exclusivement. Et il n'accepte que ce qui mène à lui, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, nous dit, وَلَا يَكُونُ لِلَّهِ إِلَّا مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Après nous avoir parlé de la sincérité de manière très claire, il nous parle maintenant de la conformité à la sunna. Et ne peut être considéré pour Allah que ce qui est aimé d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. وَهُوَ الْمَشْرُوعُ. Et c'est ce qui est prescrit. Il nous a donc parlé du fait que ce bas monde est maudit, sauf ce qui est fait pour Allah uniquement, subhanahu wa ta'ala, et ne peut être considéré comme étant pour Allah uniquement en même temps que ce qui concorde avec ce qu'Allah a aimé et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فَكُلُّ عَمَلٍ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ. Toute action à travers, autre qu'Allah a été recherchée, n'est pas pour Allah. وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُوَافِقُ شَرْعَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ. De même que toute action n'étant pas conforme à la prescription d'Allah, cette action n'est pas pour Allah non plus. Donc, au résultat, nous avons deux choses. L'auteur nous dit « بَلْ لَا يَكُونُ لِلَّهِ إِلَّا مَا جَمَعَ الْوَصْفَيْنِ » ne peut être considéré pour Allah comme étant pour Allah que ce qui réunit les deux caractéristiques suivantes. La première, « أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ » que l'œuvre soit dédiée, réservée à Allah. La seconde, « أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِمَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » que cette œuvre soit conforme à ce qu'Allah aime et son messager aime, sallallahu alayhi wa sallam. Que sont ces deux choses? Il nous dit, wa huwa al-wajib wa al-mustahab. Ce sont les obligations et les actes auxquels l'islam a encouragé, même s'ils ne sont pas obligatoires. Vous avez entendu l'appel à la prière dans cette mosquée. Qu'avez-vous fait après cet appel? Deux rak'a. Est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est recommandé? Oui. C'est aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Ensuite, vous avez entendu l'iqama et vous avez accompli la prière du asr. C'est une obligation? Oui. Ces deux choses-là, que sont les obligations et les actions recommandées, résume ce qu'Allah aime et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la prière n'a été citée qu'à titre d'exemple pour illustrer ce qui est voulu. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit al-muwafiqu li shar'illah imma an yakuna wajiban wal wajibu huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu aw mustahabba وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل السنن والمستحبات والنوافل. Ce qui est en accord avec la prescription divine, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est deux choses. L'obligation qui a été définie comme étant ce pourquoi l'auteur est récompensé et ce à cause de quoi celui qui le délaisse est dans le péché. Et l'acte recommandé, qui est ce pourquoi l'auteur est récompensé, mais celui qui le délaisse n'est pas dans le péché. Donc, il y a une nuance entre l'obligation et les actions recommandées. L'auteur, rahimahullah, nous dit, « كما قال تعالى, من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans le sens rapproché du dernier verset de Suratul Kahf, que je vous invite à mémoriser, car ce verset réunit les deux conditions d'acceptation des œuvres. Et lorsque tu dialogueras avec autrui, que tu voudras convaincre d'être sincère dans ses œuvres, mais aussi de suivre la sunna, il te faudra des arguments. Le minimum implique que tu connaisses ce verset-là, afin de leur citer. Le sens rapproché du verset, quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre, une action pieuse, et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans l'adoration. On retrouve dans ce verset les deux catégories, les deux conditions pour voir ces œuvres validées. La première, c'est la conformité, qui a été cité dans « فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا » qu'il fasse une bonne œuvre. Et une œuvre ne peut être considérée comme bonne que si elle est conforme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une œuvre ne relevant pas de notre ordre, elle sera rejetée. Et la deuxième, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. L'auteur nous dit ensuite, فَلَا بُدَّ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَهُوَ الْوَاجِبُ وَالْمُسْتَحَبُ. Il faut donc absolument faire la bonne œuvre qui se résume sous l'obligation et les recommandations. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى. Mais il faut absolument aussi que cette œuvre soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. كَمَا قَالَ تَعَالَى بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dans le sens rapproché du verset, celui qui soumet son visage à Allah, tout en étant bienfaisant, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, il aura sa récompense chez son Seigneur, et il n'aura aucune crainte ni à être attristé. Où est-ce que l'on retrouve dans ce verset les deux conditions de validité des actes? La première, celui qui soumet son visage à Allah. Ce qui est voulu par là, c'est celui qui œuvre uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, tout en étant bienfaisant, et on ne peut être bienfaisant qu'en suivant la sunna. Ce verset réunit donc en lui les deux conditions de validité des œuvres. La preuve, la suite. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Il aura sa récompense chez son Seigneur. Ce qui veut dire que celui qui ne soumet pas son visage à Allah, alaykum salam, subhanahu wa ta'ala, et qui n'est pas bienfaisant en suivant la sunna, n'aura pas sa récompense chez son Seigneur. Ce verset a été expliqué par le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait une œuvre ne relevant pas de notre ordre, elle sera rejetée. Ce hadith est la preuve de la conditionnalité de la conformité avec la sunna dans les actions. Celui qui n'est pas conforme avec la sunna a perdu une condition pour valider ses actes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Le récit connu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les actions ne sont prises en considération qu'en fonction des intentions qui les accompagnent. » C'est-à-dire que ce que tu fais comme acte et prononces comme parole aura, si Allah subhanahu wa ta'ala, la considération qui correspond à l'intention que tu as eue au moment de faire ou de dire. Si c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu as fait et dit, ça sera chez Allah considéré comme tel. Si ce n'est pas le cas, ça sera considéré chez Allah comme étant ce pourquoi tu as eu l'intention de faire. Et c'est en fonction de cela que ta rétribution te sera donnée. Pour cela, le prophète alayhi salatu wasalam nous donne comme exemple l'adoration de al-hijra, de l'émigration. Nas'alullah min fadlih, qu'Allah nous accorde de ses grâces. Il dit, celui dont l'émigration a été faite vers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il Allah, vers Allah, pour te montrer la sincérité dans le sens où la personne, elle se dirige de son cœur et de ses membres vers Allah subhanahu wa ta'ala, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Son émigration sera alors comptée comme vers Allah et son messager. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا. yusibuha est celui dont l'émigration a été faite pour une part mondaine qu'il veut atteindre, aw imra'atin yatazawwajuha ou une femme qu'il veut épouser, fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Son émigration sera alors considérée comme pour ce pourquoi il a émigré. Regardez la différence. Quand il a cité, sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah et son messager, il l'a répété. Ilallahi wa rasoulé, ilallahi wa rasoulé. Celui dont l'émigration aura été faite pour Allah et son messager sera considéré comme pour Allah et son messager. Et quand il a parlé d'une chose de la dunya, il a dit celui dont l'émigration a été faite pour une part mondaine qu'il veut atteindre ou une femme qu'il veut épouser, voyez qu'il n'a pas dit elle sera considérée comme pour une part mondaine qu'il veut atteindre ou une femme qu'il veut épouser. Mais il a simplement dit elle sera considérée comme ce pourquoi il a émigré. Vous savez pourquoi? Pour ne pas lui accorder aucune importance à la dunya ou à au fait de vouloir épouser, de vouloir émigrer pour épouser une femme. Il ne l'a pas répété pour montrer que cela n'a aucune importance. Comme si l'un d'entre nous disait, cette chose dont tu as parlé, elle n'a tellement pas de valeur pour moi que je ne vais pas la répéter. Cette chose, je la méprise. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ses propos. L'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite وَهَذَا الْأَصْلُ هُوَ أَصْلُ الدِّينِ. Et ce fondement est le fondement de la religion. وَبِحَسَبِ تَحْقِيقِهِ يَكُونُ تَحْقِيقُ الدِّينِ. Proportionnellement à sa concrétisation, la religion sera concrétisée. Ce fondement, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur, rahimahullah, est versé dans la science. Quand il dit que c'est le fondement, la preuve, c'est la parole par laquelle tu entres en islam et sans laquelle tu ne peux pas entrer en islam. Quelle est-elle? Ash'hadu an la ilaha illallah. Tu témoignes que nul autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration. C'est la sincérité. Ensuite, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Donc tu dois le suivre. Sans cette parole, tu ne rentres pas en l'islam. Reviens maintenant à la parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa hadha al-aslu huwa aslu ad-din. Et ce fondement est la base, est le fondement de la religion. Est-ce qu'il a fait erreur? وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين. Et proportionnellement à la concrétisation de ce fondement, la religion sera concrétisée. وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce grand imam, nous dit, c'est par lui que le prophète a été envoyé. Tous les prophètes ont été envoyés pour prêcher à ce fondement de la religion, à l'unicité d'Allah, au suivi du messager qui est envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا. Et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans lui révéler nulle divinité ne mérite réellement l'adoration autre que moi. Adorez-moi donc. Il s'adresse au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Shir Salih al-Fawzan nous dit هذا هو الأصل الذي أرسل الله به الرسول. C'est par ce fondement qu'ont été envoyés les messagers. Wa unzilat bihi al-kutub, révéler les livres. Wa hadha huwa ra'su ad-da'wa. Ce fondement, c'est la tête de la prédication islamique. du prêche. وأول ما يدعى إليه في منهج الدعوة. Et dans la méthodologie à suivre dans la prédication, c'est la première chose à laquelle on appelle. Il nous dit ensuite, فالمناهج التي تهمش التوحيد ولا تدعو إليه مناهج باطلة ولا تجدي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. Toutes les autres méthodologies, les méthodologies de prédication. Car comme vous le savez, nous vivons une époque où les tendances se font de plus en plus nombreuses. Et chacune d'entre elles a ses règles, ses bases, ses fondements qu'elle dit appliquer et suivre. Pour certains, il ne faut pas se concentrer sur cela, mais plutôt sur autre chose. D'autres se concentrent sur l'appel au bon comportement, en oubliant le mauvais comportement envers Allah qui est le shirk, et le prophète al-Sallam qui est la bid'a. Certains vont se concentrer sur la politique, appeler les gens à l'islam à travers la politique, d'autres par la dunya et autres moyens. Toutes ces prédications sont nulles chez Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les méthodologies de prédication qui ont mis à la marge le tawhid, l'unicité d'Allah, elles l'ont délaissée et mise de côté et n'y appellent pas, sont des méthodologies nulles. Et elles n'apportent aucune chose chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une parole de savant. Parce que peut-être que dans la dunya, elle apporte. Peut-être que dans la dunya, le prêcheur de ses voies égarées a beaucoup de suiveurs. Peut-être qu'il a réussi à faire telle et telle chose. Mais ça, ça n'importe pas le musulman. Ce qui importe le musulman, c'est chez Allah. Et le savant, il sait de quoi il parle. Il dit, toutes ces voies-là, chez Allah, elles n'ont pas de résultat. Subhanahu wa ta'ala. Peu importe le décor, peu importe les apparences, chez Allah, ça n'a pas de valeur. Subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah, nous dit ensuite que tous les messagers y ont appelé, ordonné, encouragé. C'est le pôle de la religion. L'appel au tawhid. L'auteur, rahimahullah, poursuit et dit وَالشِّرْكُ غَالِبٌ فِي النُّفُوسِ وَهُوَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. Écoutez bien, le polythéisme, le shirk, est quelque chose largement présent dans l'âme des gens. C'est quelque chose qui est en l'âme, de manière large. Et comme on le voit dans le récit, le prophète alayhi salat wa salam dit, et il est dans cette communauté plus caché que la marche de la fourmi. Imaginez-vous une fourmi qui marche au milieu de nous. Qui est-ce qui la verrait? Personne. On n'entendrait aucun bruit. On ne la verrait même pas s'introduire au milieu de nous. Il arrive des fois que la personne a un insecte qui s'est introduit dans son vêtement. Elle ne le sait pas, n'est-ce pas? Elle rentre chez elle avec cet insecte. Elle ne le sait pas. Elle va se coucher. Elle ne sait pas qu'un insecte s'est introduit. Cet insecte va pondre des œufs dans ce lit. Ces œufs vont donner naissance à d'autres qui eux-mêmes vont pondre dans toutes les chambres de la maison jusqu'à tuer les enfants, à les rendre malades et les personnes elles-mêmes qui vont se demander pourquoi est-ce qu'elles sont tombées malades parce qu'elles n'ont pas vu cela. N'est-ce pas? Le shirk, c'est plus caché que ça. Lorsque tu entends ça, tu ne peux pas ne pas apprendre le tawhid. Lorsque tu entends que là, on ne parle pas d'un insecte qui va pondre des œufs pour donner la fièvre à ton fils. On parle de la destruction de ton cœur et du but de ta création. On parle de l'enfer éternel. Tu peux rester sans apprendre. Tu peux dire après qu'il y a plus important que ça. Tu peux dire après que l'on doit débuter le prêche par quelque chose de plus important, les bons comportements, les sourires et les bons voisinages, et délaisser le shirk. Abadan. أبدا. L'auteur, rahimahullah, nous dit, وفي حديث آخر قال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل. Dans un autre hadith, Abu Bakr radiallahu anhu dit, ô messager d'Allah, comment pouvons-nous s'en voir épargner alors qu'il est plus caché que la marche de la fourmi? Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr a dit, qui est-ce qui parle? Abu Bakr radiallahu anhu. Et il ne dit pas comment est-ce que les gens peuvent s'en voir épargner. Il dit comment pouvons-nous s'en épargner. La ilaha illallah. Bien que l'authenticité du hadith ait été discutée, si ce n'est que il y a un autre récit authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, qui comporte les mots semblables. Subhanallah, je l'avais mis, je ne l'ai plus. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, voilà. Rapporté par l'imam Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, « Walladhi nafsi biyadih, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, la shirku akhfa min dabib al-naml, que le politisme est plus caché que la marche de la fourmi. Ala adulluka ala shay'in, idha qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiru, ne vais-je pas t'orienter vers une parole qui, si tu la prononces, s'en ira de toi, le polythéisme, petit soit-il ou grand. Qala qul, il lui dit de dire, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Oh Allah, je te demande la protection, je cherche refuge auprès de toi, contre le fait de t'associer en pleine connaissance de cause, et te demande le pardon pour ce que j'ignore. Cela te montre, cher frère, cher musulman, qu'il est possible de tomber dans le shirk sans t'en rendre compte, sans le savoir. C'est pour cela que c'est sur ce point que tu dois concentrer ta religion, toute ta vie, et ne pas dire « j'ai compris maintenant, j'ai compris ». Car quand tu commences à dire « j'ai compris », c'est que tu as commencé à ne rien comprendre. Et le prophète Mohammed alayhi salat wa salam a craint pour lui-même et pour la communauté le polythéisme contre lequel il a demandé la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez-vous apprendre cette invocation? Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apprenez-la et vous la trouvez dans les ouvrages d'invocation. Et celui qui veut, je lui écrirai ou lui transmettrai, Inch'Allah ta'ala. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر, le prophète عليه الصلاة والسلام répond alors à Abu Bakr, ألا أعلمك كلمة, ne vais-je pas t'enseigner une parole, إذا قلتها نجوت من دقه وجله, qui si tu la prononces, tu seras sauvé de ces petites formes et grandes formes. قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. Il lui enseignait cette invocation. وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. عمر كالله لغري disait dans ses invocations, ô Allah, fais que toutes mes actions soient pieuses, c'est-à-dire conformes à la sunna, et qu'elles soient faites exclusivement pour ta face, la sincérité, et ne mets dans aucune d'entre elles quelque chose pour autre que toi. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « Al-hadar min waswasati shaytan » de prendre garde aux insufflations du diable. Il dit « Ya'ti shaytan ila ba'di shabab » le diable se dirige vers certains jeunes. « Wahada shay'un su'ilna anhu kathira » et on a plusieurs fois reçu cette question. « Wayaqulu lah la tusalli ma'al jama'a hatta la tusaba birriya » ce shaytan vient à ce jeune et lui dit « Ne prie pas en groupe afin d'éviter l'ostentation. » Et tu vois cette personne qui délaisse la prière en groupe, elle se dit « Je ne dois pas prier en groupe car les gens vont dire que je prie pour eux ou alors je préfère laisser ça entre moi et Allah et ça c'est la vérité. Tu discutes parfois avec des gens, pourquoi ne viens-tu pas à la prière ? » Il dit « Je laisse ça entre moi et Allah dans ma chambre fermée. » Tu t'es fait avoir par le shaytan. Le prophète ﷺ n'a jamais laissé ça entre lui et Allah dans sa chambre fermée. Et qu'est-ce que l'on va faire si on agit de cette façon avec toutes les actions? Qui va faire l'appel à la prière? Quand est-ce qu'on va appeler à la prière si on rentre dans cette porte et on dit il vaut mieux laisser ça et être sincère et ne pas faire les actions devant tout le monde? À cause de toi, on ne va plus appeler à la prière. Regardez la ruse de shaytan. ولا تقوم وتصلي بالليل حتى لا تصاب بالرياء ولا تعمل كذا خوفا من الرياء ولا يلتفت إليه. Il nous dit, il dit que le shaitan dit à beaucoup de gens, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas telle et telle action afin de ne pas tomber dans l'ostentation. فالمسلم يعمل الأعمال الصالحة ويسأل الله السلامة من الرياء. La justesse, la droiture, c'est que le musulman fasse de bonnes actions tout en demandant à Allah de le protéger contre l'ostentation. J'ai moi-même assisté à une assise du savant, le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, hafidahullah, qui a été interrogé par une personne qui lui a dit « Ô Cheikh, j'ai peur de ne pas être sincère dans mes actions, il m'arrive alors d'en délaisser quelques-unes. » Le Cheikh a dit « Subhanallah, pourquoi délaisses-tu les actions ?» Œuvre simplement par amour pour Allah, espoir en sa miséricorde, crainte de son châtiment et ne délaisse pas les actions. Ça, c'est le juste milieu. Voilà, يترك العمل خوفا من الرياء فهذا تخذيل من الشيطان. L'auteur rahimahullah dit ensuite وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة. L'auteur rahimahullah nous dit, et très souvent viennent se mêler à l'âme ou vient se coller ou s'introduire dans l'âme de la personne des passions imperceptibles, un penchant du cœur caché qui est dur à remarquer. Qu'est-ce que va faire cette passion imperceptible? Elle va lui détruire la concrétisation de son amour pour Allah et sa servitude pour lui, tout comme sa sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Shaddad ibn Aws a dit, dans le sens de sa parole, « Ô vous les Arabes, la chose que je crains le plus pour vous, c'est l'ostentation et la passion cachée. » La passion imperceptible. Abu Daoud al-Sijistani, un des savants du hadith, fut interrogé sur le sens de cette parole. On lui dit, qu'est-ce que cette passion imperceptible cachée? Qu'est-ce que c'est? Il répondit, Hubbur ri'asa. C'est l'amour de l'autorité. Le fait de commander. Que ce soit mondainement parlant et même religieusement. Le fait d'être au-dessus de l'autre. D'ordonner à l'autre. De diriger, de tenir, de commander, l'amour de cela, c'est quelque chose qui dans le cœur est imperceptible et qui est une barrière entre la personne et la concrétisation de l'amour pour Allah Azza wa Jal et de la servitude pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhah Allah, nous dit « فَكُلُّ إِنْسَانٍ يُحِبُّ الشُّهْرَةِ » Il y a par exemple l'amour de la célébrité, l'amour de paraître, l'amour d'être toujours vu et constamment entendu, l'amour de voir ses avis suivis, ses ordres appliqués, ses directives appliquées et ainsi de suite. فَكُلُّ إِنْسَانٍ يُحِبُّ الشُّهْرَةِ وَالْمَدْحِ وَالظُّهُورِ وَهَذَا خَطِيرٌ جِدًّا L'homme aime la célébrité, les louanges d'autrui. Il aime paraître devant les gens. Et c'est quelque chose de très dangereux. Car cela relève de riya, de l'ostentation. Et ça, il faut donc s'en protéger. L'imam rahimahullah ibn Taymiyyah a dit وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi رحمه الله et qui est grandiose, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Deux loups affamés, lâchés dans une bergerie. » La bergerie, l'endroit où les moutons sont réunis. « Deux loups affamés, lâchés dans une bergerie, ne seront pas plus destructeurs que l'est l'avidité de l'homme. » Pour l'argent et la renommée dans sa religion. Je répète, deux loups affamés. Vous connaissez cet animal. Vous savez combien ses dangers sont grands, surtout lorsqu'il trouve sa proie préférée qui est le mouton. Imaginez-vous qu'il est affamé, accompagné d'un deuxième affamé. Il est dans une bergerie, le berger est absent. Imaginez-vous les dégâts qu'ils vont faire. Et le loup ne va pas se contenter d'un morceau. Il va tout déchirer. Le sang va couler. Il va être dangereux pour toute cette bergerie. Deux loups affamés, lâchés dans une bergerie, ne sont pas plus destructeurs ou corrupteurs que ne l'est l'avidité de l'homme pour l'argent ou la renommée dans sa religion. C'est-à-dire, comme nous le dit l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, qui a une risala, un écrit où il a expliqué ce hadith. Un écrit à part entière où il a expliqué ce hadith. Il nous dit, je vous lis juste une parole. Il nous dit, « وفي حديث ابن عباس » حب المال والشرف بدل الحرص في الدنيا وأن فساد الدين بذلك. Dans le hadith, on voit que la religion est détruite à cause de cela, à cause de l'amour que la personne a de la renommée dans sa religion. Il nous dit فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا. C'est une image frappante que nous présente le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer la perversion de la religion du musulman à cause de l'avidité pour l'argent et la renommée dans cette vie d'ici-bas. وَأَنَّ فَسَادَ الدِّينِ بِذَلِكَ لَيْسَ بِدُونِ فَسَادِ الْغَنَمِ بِذِئْبَيْنِ جَائِعَيْنِ ضَارِيَيْنِ بَاتَ فِي الْغَنَمِ وَقَدْ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا لَيْلًا فَمَهْمَ يَأْكُلَانِ فِي الْغَنَمِ وَيَفْتَرِسَانِ فِيهَا. Il nous montre que la destruction de cela pour la religion de la personne n'est pas plus grave, pardon, est beaucoup plus grave que la destruction de deux loups lâchés dans une bergerie, affamés alors que les bergers sont absents en pleine nuit. Imaginez-vous tout ce qu'ils vont faire. أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا القليل. Et il est connu que dans un tel état, il n'y a que très peu de moutons qui seront épargnés des dégâts causés par ces deux loups affamés. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a donc informé أخبر أن الحرص على المرء حرص المرء على المال والشرف ليس إفساده لدينه بأقل من إفساد هذين لهذا الغنم بل إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أزيد. Il se peut que la destruction que la personne cause dans sa propre religion à cause de cette passion cachée qui est le penchant de son cœur vers l'avidité pour la renommée, pour l'argent, etc. soit semblable à la destruction des deux loups dans la bergerie, ou même pire encore. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المرء مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل. كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيهما إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. Cette image donnée par le prophète صلى الله عليه وسلم nous montre la gravité et la dangerosité de l'avidité pour l'argent et la renommée. L'auteur rahimahullah nous dit فَبَيَّنَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ الْحِرْصَ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي فَسَادِ الدِّينِ لَا يَنْقُصُ عَنْ فَسَادِ الذِّئْبَيْنِ الْجَائِعَيْنِ لِزَرِيبَةِ الْغَنَمْ وَذَلِكَ بَيِّنْ. Et cela est clair. La perversion causée par cette avidité dans la religion de la personne est claire. وَذَلِكَ بَيِّنْ فَإِنَّ الدِّينَ السَّلِيمِ لَا يَكُونُ فِيهِ هَذَا الْحِرْصِ. Car la religion saine de la personne, la vraie foi, la vraie religion de la personne, on ne trouve dans celle-ci aucunement cette avidité décrite tantôt. Et ça, c'est une marque montrant que la religion de la personne, sa religiosité est saine, elle est pure. C'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que la personne est attachée à Allah tabaraka wa ta'ala et n'a pas l'avidité de la renommée, pour la renommée, pour le pouvoir, pour l'argent, et j'en passe. Il nous dit وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. Il en est ainsi, car quand le cœur a goûté à la saveur de la servitude pour Allah et son amour, il ne trouvera alors aucune autre chose plus importante que cela pour la devancer. Si le cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala et vers lui uniquement il penche, Allah azza wa jal deviendra pour lui ce qu'il y a de plus cher et ce qu'il y a de plus important. Il ne trouvera donc aucune chose à faire passer avant cela, avant l'amour pour Allah azza wa jal, avant la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu dans le hadith des trois choses. وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء. Regardez, c'est avec la sincérité que les sincères ont eu pour Allah Azza wa Jal qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les a éloignés du mal et de la turpitude. Vous connaissez bien l'histoire de Yusuf alayhi salam. Et vous savez que le prophète Yusuf alayhi salam a été tenté notamment par la femme du roi qui était séduisante et qui avait réuni une situation telle que toutes les causes étaient faites pour le pousser au péché. Il ne manquait plus que le passage à l'acte. Yusuf était un jeune, séduisant, en pleine forme, il avait tous les moyens pour commettre l'acte. Ce que l'être humain recherche de manière naturelle. C'est comme ça qu'Allah Azzawajal l'a créé. Pourtant, cette chose est interdite. Yusuf alayhi salam en a été épargné par Allah. Par quelle cause? Par sa sincérité envers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal a dit « كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ » C'est ainsi que nous avons éloigné de lui le mal et la turpitude. À la fin de l'histoire, quand on voit que Yusuf alayhi salam n'a pas répondu à cet appel, « إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ » Il fait certes partie de nos serviteurs élus. « مُخْلَصِينَ » c'est-à-dire « élus ». Ça vient du verbe « akhlasa » qui veut dire plusieurs choses parmi lesquelles le fait d'élire quelqu'un, de le choisir parmi tant d'autres. Et cela implique, puisqu'il a été élu, annahu mukhlis, qu'il est sincère. Car Allah Azza wa Jal a élu ceux qui sont sincères envers lui. Subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, فَإِنَّ الْمُخْلِصَ لِلَّهِ ذَاقَ مِنْ حَلَاوَةِ عُبُودِيَّتِهِ لِلَّهِ مَا يَمْنَعُهُ عَنْ عُبُودِيَّتِهِ لِغَيْرِهِ Certes, l'individu sincère envers Allah a goûté à la saveur de la servitude pour Allah, ce qui l'empêche de pratiquer la servitude pour autre que lui. Il a goûté à ce qu'il y a de meilleur, de plus bon, de plus savoureux. Il ne peut pas revenir à quelque chose de moins bien que cela. Pire encore, quelque chose qui le détruira dans sa vie et dans l'au-delà. وَمِنْ حَلَاوَةِ مَحَبَّتِهِ لِلَّهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ مَحَبَّةِ غَيْرِهِ Il a aussi goûté, celui qui est sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala, à la saveur de l'amour pour Allah. Il a goûté dans cela à quelque chose qui l'empêche de rechercher un amour pour autre que lui. إِذْ لَيْسَ عِنْدَ الْقَلْبِ لَا أَحْلَى وَلَا أَلَذُّ وَلَا أَطْيَبُ وَلَا أَلْيَنُ وَلَا أَنْعَمُ مِنْ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ الْمُتَضَمِّنِ عُبُودِيَّتَهُ لِلَّهِ Car il n'y a pour le cœur, il n'y a pas plus savoureux, plus délicieux, plus bon, plus doux que la saveur de la foi. La saveur de la foi qui implique la servitude pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatahu lah wa ikhlasahu ad-din lah. Wa dhalika yaqtadi injidab al-qalbi ila Allah. فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب L'auteur rahimahullah dit ensuite il n'y a pas plus savoureux que tout cela la douceur de la foi qui implique la servitude pour Allah l'amour pour lui la sincérité dans le culte et qui amène le cœur et tire le cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui le rend repentant, revenant à Allah, craintif, désireux de tout ce qu'Allah a auprès de lui. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Celui qui redoute le tout miséricordieux sans le voir, le croyant dans ce bas monde qui craint Allah azza wa jal, sans pour autant le voir. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ Et qui vient avec un cœur revenant et repentant à lui. Subhanahu wa ta'ala. إِذِ الْمُحِبُّ يَخَافُ مِنْ زَوَالِ مَطْلُوبِهِ وَحُصُولِ مَرْغُوبِهِ فَلَا يَكُونُ عَبْدًا لِلَّهِ وَمُحِبَّهُ إِلَّا بَيْنَ خَوْفٍ وَرَجَاءٍ قَالَ تَعَالَى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. L'auteur rahimahullah nous dit, car l'aimant, celui qui aime Allah Azza wa Jal, craint de voir perdre ce qu'il recherche. lorsque tu aimes quelque chose, tu crains de ne pas l'avoir. Tu crains de ne pas l'atteindre. Lorsque tu as un rendez-vous important sur lequel va débaucher quelque chose de valeur pour toi, tu crains de perdre ce rendez-vous avant même d'y aller. N'est-ce pas? Celui qui aime Allah tabaraka wa ta'ala, qui aime sa satisfaction d'Allah, qui aime l'entrée au paradis, il craint de ne pas y accéder. Il craint de ne pas atteindre cela. L'auteur rahimahullah nous dit, ça c'est pour te montrer que celui qui aime a aussi la crainte. Automatiquement. Il a aussi la crainte. Et il a aussi l'espoir. Elle nous dit, l'individu ne peut être serviteur d'Allah, aimant d'Allah Azza wa Jal, que s'il est entre deux choses. La peur, la crainte et l'espoir. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens rapproché du verset, après avoir vanté les mérites de certains, ceux-là recherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Et ils cherchent à être le plus proche de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Certes, le châtiment de ton Seigneur est à redouter. S'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك